Mondial Sport, RFI. Sofiane Amazian.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche dans Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI. La Terre a tremblé hier soir du côté de Riyad en Arabie Saoudite. Deux titans sont entrés en collision en plein milieu d'un ring de boxe. Après un premier affrontement au mois de mai dernier, l'Ukrainien Alexander Usyk et le Britannique Tyson Fury ont remis ça en jeu, trois ceintures pour se disputer le titre de meilleur boxeur poids lourd au monde. Usyk avait remporté le premier affrontement assez largement. Le second, hier soir, était un peu plus disputé, mais le résultat est le même. Alexander Usyk s'est imposé par décision unanime. L'Ukrainien confirme qu'il fait bien partie des plus grands boxeurs de sa génération et de l'histoire. On se posera la question dans cette émission. Quelle est la suite pour les deux combattants? L'Arabie Saoudite est-elle devenue définitivement le nouvel Eldorado de la boxe mondiale? Beaucoup de choses à analyser et à décortiquer. Pour ce faire, nous aurons le plaisir d'accueillir par téléphone le boxeur franco-sénégalais Souleymane Cissoko, toujours invaincu en professionnel et qui vise le titre de champion du monde des Welter WBC. En studio, deux athlètes aussi à l'aise avec les mots qu'avec leurs poings. À ma gauche, Marine Camara, boxeuse olympique et porte-drapeau du Mali lors des Jeux de Paris. Salut Marine.
Salut Sofiane.
Comment ça va?
Toujours en forme et toi?
Non, moi tout va bien. J'ai vu un très beau combat hier soir et je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. On accueille évidemment notre consultant sport de combat dans Mondial Sport, le MMA cool dans ses veines, je le nomme Xavier Fupa Pokam. Bonjour Xavier.
Je suis le professeur X et c'est l'heure de la punition, mon cher Sofiane. Ça va très bien, merci.
J'adore vos t-shirts, monsieur incroyable. Ça, c'est des... Vous avez mis les vêtements également Mondial Sport. Spécial box, c'est parti.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Waiting for the mistake.
This first round, more intent with the shot. Good one, two though for Fury.
Lovely right hand there for Fury.
Oh, left hand, the big left hand from Usyk for the first time. It really connects.
And again.
And the man in heavyweight boxing. It will go down to the scorecard.
Oh,
another terrific ending.
All to the winner by unanimous decision. Still undefeated, still the reigning heavyweight champion of the world, Alexander
Usyk. C'était le combat le plus attendu de cette fin d'année 2024 et le dernier grand événement sportif planétaire. Avant la nouvelle année, Usyk Fury 2, les deux géants remettent ça en jeu. La suprématie chez les poids lourds, tout simplement. Trois ceintures se disputent, WBC, WBA, WBO. La dernière ceinture, IBF, a elle été rendue vacante, puis gagnée par le jeune anglais Daniel Dubois. Bousculé dans les grandes largeurs lors du premier affrontement, Tyson Fury devait changer de stratégie, mais rien n'y fait. Au terme de 12 rounds très souvent disputés entre deux légendes, Usyk a convaincu les trois juges, victoire par décision unanime, 116 à 112. Le roi conserve donc sa couronne. Xavier Fupa Pokam, on va essayer de résumer le combat pour nos auditeurs. Je vais vous donner les grandes lignes et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi.
Résumons.
Le début d'affrontement entre les deux est plutôt serré, même peut-être un petit peu à l'avantage de Fury, mais il y a un round vraiment pivot. C'est la sixième reprise où on sent qu'Alexander Usyk touche beaucoup plus le visage de son adversaire et puis il déroule jusqu'à la fin du combat. Une dernière reprise un petit peu équilibrée et puis on arrive à la fin du combat et ce résultat et cette victoire unanime pour Alexander Usyk.
Bah c'est effectivement ça, à la différence qu'effectivement on avait deux géants, mais on avait quand même David contre Goliath parce qu'on avait 20 kilos de différence et 15 bons centimètres aussi. D'un côté, et puis de l'autre, on avait donc un Usyk qui savait très bien, je pense que Marina me contredira pas, on connaît le principe, lorsqu'on a un tel différentiel d'allonge, j'ai pas le choix, je dois entrer dans ma distance en traversant la distance de mon adversaire en prenant le moins de coups possible, surtout quand en plus il peut mettre KO d'un seul coup. Donc c'est ce qu'a fait Usyk. Usyk a été très agressif. À chaque fois on le voyait jaillir, ressortir, jaillir, se retrouver à sa distance, boxer en enchaînement surtout. Quand il prenait des coups parfois, on s'attendait à ce qu'il vacille parce qu'on connaît la puissance de Fury. Eh bien non, il a été là, il a été agressif et présent jusqu'à la fin. Et finalement, il a débordé complètement un Fury qui était plutôt positionné en contreur et qui tentait de tenir Usyk du bout de ses poings. Et malheureusement, il n'a pas réussi.
Alors qu'on s'attendait à l'inverse. Surtout après le premier affrontement, on se disait que Tyson Fury devait être agressif.
C'est ça, on s'attendait à un sursaut d'orgueil, à une prise de conscience. Bah, finalement, on a un Usyk finalement, qui avait bien compris et analysé son adversaire à la suite du premier combat et qui finalement a appliqué son game plan avec à la perfection quasiment.
Et c'est là où il est le plus fort, Alexander Usyk, qui étudiait ses adversaires avant le combat. Marine Camara, vous, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de ce combat? J'imagine qu'en tant que boxeuse, vous aviez des attentes techniques, sportives. Vous avez peut-être un des deux que vous préfériez. Est-ce que ce combat a répondu à vos attentes?
Alors déjà, je vais répondre en tant que fan. Je pense qu'en tant que fan, le premier combat était mieux. Il y avait beaucoup plus d'émotions. Il y avait une promotion qui avait été beaucoup plus importante. Et surtout, il y avait une inconnue qui allait perdre son zéro. Sur le deuxième combat, c'était une promotion un peu plus courte, mais avec de très belles réalisations. Pour moi, en tant que qu'athlète, j'ai trouvé ça très impressionnant de la part d'Alexander Usyk. Pour moi, le jugement est juste. J'ai vu le même jugement, surtout que j'ai regardé le combat à tête reposée ce matin. Et on voit toujours Usyk. Ce qui est impressionnant, c'est sa constance, sa détermination et ses gammes techniques. Et c'est ça qui est fou parce que si on suit son parcours depuis la boxe amateur, il fait toujours la même chose. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il fait toujours la même chose. Et jusqu'à présent, personne n'a su trouver la solution. Et même quand on a l'impression qu'il trouve la solution, comme Joshua a pu le faire sur le deuxième combat, ou comme Fury a essayé de le faire sur le début du round, ça ne tient pas. Et là, on peut se demander légitimement, mais qui va réussir à le battre? Mais pour moi, c'était un combat assez impressionnant d'Usyk. Et je trouve que la décision est assez juste.
On a l'impression, quand on vous entend, que personne ne peut battre Alexander Usyk. Il n'est pas né, en tout cas, le boxeur qui peut le battre.
Je pense qu'il est né, pour vous dire la vérité. C'est vrai qu'en étant athlète amateur, je suis très à jour sur ce qui se passe. Comme toi, Sofiane, tu as vu les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour moi, à l'heure actuelle, au niveau professionnel, ça va être difficile. Même on parle d'un combat éventuellement avec Joseph Parker, qui est un athlète assez rapide, assez, fuyant, etc. Peut-être qu'il peut causer des difficultés. Pour moi, la pièce maîtresse pour battre Usyk, ça peut être Bakodir Jalolov, qui est du coup le double champion olympique ouzbek, qui est un boxeur très technique, gaucher, très fluide sur les jambes, puissant, agressif. Ça peut être éventuellement quelqu'un capable de rivaliser, mais au niveau professionnel, il est encore en train de faire ses preuves. Et je pense qu'au moment où il arrivera au top, Usyk aura déjà peut-être arrêté sa carrière.
Allez-y, Xavier, vous voulez rebondir.
Oui, non, mais je suis absolument d'accord avec Marine, Sofiane. En fait, c'est chez un athlète, c'est le plus difficile à obtenir, c'est justement la constance. Parce qu'on connaît, la vie d'athlète, c'est compliqué. Il y a les blessures, il y a la fatigue, il y a les conditions de la vie personnelle, parfois psychologique. Et effectivement, Usyk a été très, très régulier. D'autant qu'en plus, il avait un Fury des grands jours en face. On a pu reprocher à Tyson Fury d'être dilettante sur ses derniers combats, d'un petit peu prendre à la légère ses adversaires et les défis. Là, il avait pris le combat très au sérieux. La légende raconte que pendant 3 mois, il n'a pas parlé à sa femme, qui est arrivé avec le collier de barbe des grands jours. Et finalement, malgré tout, Usyk a été largement au-dessus. Donc vraiment, c'est vrai qu'il devient vraiment une véritable menace pour la catégorie. Ça va être compliqué maintenant pour les autres.
On va écouter Tyson Fury qui a réagi après sa défaite. Si on entend bien le pugiliste britannique, selon lui, non, il n'a pas perdu, il a gagné.
J'étais très confiant, je pensais avoir encore gagné ce combat, je pensais avoir gagné les deux combats, mais encore une fois, je vais rentrer chez moi avec la défaite, la deuxième de ma carrière, donc je ne peux pas y faire grand-chose. Je peux juste me battre de tout mon cœur et faire de mon mieux. Mais encore une fois, je croirai jusqu'à ma mort que j'ai gagné ce combat. J'ai l'impression que beaucoup de juges m'ont donné 7 rounds contre 5. Beaucoup me donnaient au moins 2 rounds d'avance. Écoutez, c'est comme ça, je ne vais pas m'attarder sur ce qui s'est passé, c'est fait maintenant. Je connais la boxe, je l'ai pratiquée toute ma vie, on ne peut pas changer les décisions. Je me sentirai toujours un peu lésé, mais je pense que lorsque vous n'obtenez pas de KO, c'est ce qui se passe.
Et selon lui, plusieurs personnes pensaient que Tyson Fury avait remporté le combat avec au moins 2 rounds d'avance. C'est l'inverse.
En même temps, on sait qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Donc
Il parlait peut-être de ses démons intérieurs. 116-112, en tout cas, c'est le scoring officiel des 3 juges qui étaient là pour analyser cet affrontement. Si on fait ça mathématiquement, ça fait 7 rounds pour Alexander Usyk, 5 pour Tyson Fury. Avant de peut-être discuter d'un ou deux rounds qui étaient très serrés, de se dire est-ce qu'ils ont fait le bon choix, Marine Camara, vous nous avez dit que vous aviez le même scoring, 7-5, ça paraît c'est logique. Ça. Xavier Foupa-Pocam, est-ce que vous êtes assez d'accord avec les juges Usyk avec 2 rounds d'avance, voire peut-être plus?
Oui, non seulement je suis d'accord avec les juges, j'ai rarement l'habitude de remettre en question les décisions des juges, de toute façon après ça ne sert strictement à rien, c'est déjà fait, mais surtout d'un point de vue de l'impression, d'un point de vue du sentiment quand on regarde le combat, on sent Alexander Usyk du début à la fin, Marine parlait de constance tout à l'heure, du début à la fin, il ne baisse pas d'intensité, ne baisse pas de volume, ne baisse pas de régime, et on sait à quel point c'est important dans un combat de laisser une bonne impression à la fin du combat. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était bien dans ses baskets jusqu'à la fin du 12e round.
Oui, il y a le 12e round, on va en parler. Moi, j'ai en tête le premier. Lorsqu'on voit les juges, il y a 2 juges qui donnent le premier round à Alexander Usyk, un seul pour Tyson Fury. Alors, je ne sais pas vous, mais quand moi, j'ai regardé le combat, je pensais quand même que ce round-là allait à Tyson Fury. Je l'avais senti bien plus agressif sur la première reprise. Est-ce que cette première reprise, très disputée, pour vous, c'est logique qu'elle aille à Alexander Usyk, par exemple, ou elle aurait pu aller à Tyson Fury et ça aurait fait déjà un combat plus serré?
Alors pour moi, c'est vrai que je parlais un peu plus généralement des 4 premiers rounds. C'est là où c'était très serré. Pour moi, que ça aille dans un sens ou l'autre, c'était pareil. Parce qu'on voit, comme tu l'as dit un peu à l'extérieur, un Usyk déterminé, un Tyson aussi, Fury déterminé, qui essaie d'appliquer un nouveau game plan, qui essaie de faire la différence, et ça paye. Il a des moments forts, des coups qui sont quand même puissants et marquants, parce qu'il a plus d'impact que Usyk. Donc on peut éventuellement lui donner le premier round.
Xavier ?
Ouais, pour moi, on voit un Usyk qui est rapide, qui jaillit, qui ne se laisse pas faire, qui est conscient du différentiel physique et pourtant qui ne se laisse pas marcher dessus. Et donc ça, forcément, ça a joué dans l'esprit des juges. Et comme le dit Tyson Fury, malheureusement, lorsque le combat va à la décision, on prend le risque de remettre son sort entre les mains des juges. C'est pour ça qu'on aime les combats qui finissent avant la limite.
Et c'est intéressant, vous parliez de stratégie. On lisait, on entendait, et même nous, on pouvait analyser que la seule voie possible pour Tyson Fury, c'était de mettre un KO à Alexander Usyk. C'est jamais arrivé, mais c'était... On sait la puissance qu'a Tyson Fury, parce qu'on sait que voilà, au niveau physique, Alexander Usyk allait prendre l'ascendant au fur et à mesure des rounds. C'est ce qui s'était passé lors du premier affrontement.
Surtout l'endurance.
Et c'est ça, c'est l'énorme différence entre les deux combattants. Et attention, on ne critique absolument pas la légende qu'est Tyson Fury. C'est juste un fait scientifique et physiologique. Cette stratégie de vouloir le mettre KO, on a l'impression que ça fonctionne bien sur les 3-4 premiers rounds, on le sent très agressif, puis au fur et à mesure, il se dit peut-être, oulala, bon bah ça va être impossible et je boxe plus sur le reculoir.
C'est ça, parce que ça demande du jus, ça demande de l'énergie. De mettre KO, c'est quelque chose qui consomme. Et je pense qu'il a dû se dire éventuellement, ah ok, il a mis la stratégie, ça marchait, il voit que Usyk est très résilient, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une des qualités d'Usyk, c'est qu'il se met dans des situations difficiles à l'entraînement. Il a comme partenaire, par exemple, Martin Bacolé, oui, qu'un des plus gros punchers de la catégorie. Donc, il s'est encaissé. Et je pense qu'à un moment, Fury s'est dit « Ah, là, ça ne va pas payer. » Et peut-être que mentalement, ça l'a un peu...
On l'a senti. On a senti une descente mentale.
C'est ce que j'allais dire. En fait, j'allais exactement rajouter ça. C'est que non seulement il y a cette notion physique, ça demande beaucoup plus de ressources quand on veut absolument chercher KO. Et en plus de ça, il y a ce fameux ascenseur émotionnel qui d'un seul coup vous dégonfle et il faut pouvoir ensuite passer outre. Et c'est ce qui est arrivé, je pense, ouais, à Tyson Fury.
Bon, on reste sur Tyson Fury. Donc 2 défaites de suite contre Alexander Usyk. Là, voir une trilogie, ça paraît compliqué quand on est mené 2-0. Ce serait quoi la suite rapidement là, pour Tyson Fury? On entend, on lit comme quoi le prochain combat, ce serait un combat avec son compatriote Anthony Joshua du côté de Wembley à Londres. Ce serait le meilleur combat pour lui. Bon, il ne va pas tarder non plus à prendre sa retraite. Économiquement, il s'est bien mis, Tyson Fury. On rappelle que c'est presque 200 millions de dollars à la bourse pour les deux combattants. C'était du 60-40, 60% pour Usyk, 40% pour Fury.
Mais on le connaît pour être très très dépensier aussi, donc on n'est pas sûr qu'il en reste beaucoup aussi, malgré les
sommes. Anthony Joshua, c'est la bonne chose dans 1 an par exemple, Anthony Joshua ?
Je pense que c'est peut-être le meilleur choix, parce qu'en fait, concrètement, il n'a plus rien à gagner. La meilleure chose maintenant qui lui reste à faire, c'est de sortir en beauté pour laisser un bel héritage, une belle legacy, comme on aime bien dire aujourd'hui. Et donc, clairement, faire à la fois un combat lucratif, malheureusement, à notre époque, mais aussi un combat qui va marquer les esprits, qui va attirer du monde et qui va lui permettre de sortir par la grande porte.
Marine, même avis ?
Même avis, je pense que les deux ont subi des défaites très importantes qui ont compromis leur chance de revenir dans le top mondial. Et du coup, la seule manière de garder un peu une place, c'est de faire des matchs en fait, qui suscitent de l'audience, qui suscitent du public. Et c'est le combat que tout le monde attend. Malheureusement, ça arrivera trop tard, mais ça reste quelque chose qui va attirer l'attention.
On sait que c'est deux combattants qui attirent l'attention. On parlera de Alexander Usyk dans quelques instants. On va juste écouter le boxeur ukrainien qui nous explique ce qu'il va faire là, dans les prochains mois. C'est-à-dire pas grand-chose.
Ma prochaine étape, c'est de me reposer. Parce que ma petite fille Maria, aujourd'hui, ma femme m'a envoyé un message, une vidéo de ma petite fille qui dit « Papa, papa ». Dix mois et demi. J'ai regardé ma petite fille, je lui ai dit que je serais absent maximum 2 mois, peut-être 1 mois et demi. Maintenant, j'ai envie de rentrer chez moi, de me reposer, d'éteindre mon téléphone et de fermer ma maison. Je veux pouvoir m'avachir et regarder le ciel.
C'est un bon plan, ça, s'avachir et regarder le ciel. Il l'a mérité, hein, notre cher Alexander
Usyk. Il a raison, la vie d'athlète, c'est une vie de sacrifice. Donc à un moment donné, si soi-même on veut pouvoir récupérer psychologiquement, il faut être capable aussi de s'arrêter 2 secondes et puis de penser aux autres, penser aux siens.
Alors qu'est-ce que peut motiver maintenant Alexander Usyk pour défendre ses ceintures? Il a fini le jeu, il a tout gagné. On sait que par contre, il y a la nouvelle génération qui arrive. Vous parliez de Martin Bakole, le Congolais. Prochain challenger dans les prochains mois, prochaines années, Martin Bakole pourrait être un problème pour Alexander Usyk?
Moi, je pense pas. C'est-à-dire que pour Martin Bakole, c'est un des athlètes les plus impressionnants. Il aura forcément sa chance au niveau mondial. Maintenant, une des qualités d'Usyk, c'est son adaptabilité. Et on sait que Martin Bakole a été un de ses partenaires d'entraînement les plus réguliers. Je pense que Usyk a enregistré trop d'informations à son sujet. Et les deux ne sont pas des boxeurs qui vont forcément changer leur jeu de boxe. Du coup, je ne vois pas Martin Bakole gagner. Juste pour le fait que lui et Usyk sont partenaires d'entraînement. Si par contre, il y avait cette incertitude du fait que Martin Bakole ne soit pas connu d'Usyk, c'est possible. Mais là, je pense que Usyk a trop de... C'est un boxeur trop intelligent, bien entouré. Du coup, voilà.
Bon, Martin Bakole qui candidate également à la ceinture IBF qui est pour l'instant détenue par le Britannique Daniel Dubois. Il aura peut-être aussi cette opportunité de devenir champion du monde via cette fédération. Là, Mondial Sport sur RFI, on décortique le combat titanesque de boxe entre les deux poids lourds Alexander Usyk et Tyson Fury. La suite, c'est dans quelques instants. On s'écoute un peu de musique en attendant. C'est le titre Atlas de Acid Arab et Sem Yildiz, opéré par Hélène Avril à la réalisation de cette émission. Alexander Usyk et Tyson Fury à l'honneur ce dimanche dans Mondial Sport, vous l'avez compris. On retrouve le ring dans quelques instants, le temps d'évoquer l'actualité la plus actuelle.
Mondial Sport.
Et le point actu du jour opéré comme hier, par Olivier Pron. Bonjour Olivier.
Bonjour Sofiane. Mon souhait pour 2025, c'est que vous trouviez une musique un peu moins ascenseur pour ce passage obligé dans Mondial Sport.
Moi, je trouve que ça groove un petit peu.
C'est un peu pieux, je le sais.
Mais... Moi, je trouve que ça groove un petit peu, mais après, chacun ses goûts, ça ne se discute pas. Vous voulez parler de football d'abord, mon cher Olivier, ouais. En Angleterre, avec la suite de la 17e journée de Première Ligue.
Everton-Chelsea, c'était le premier match du jour, important, parce que Chelsea, 8 victoires de rang, toutes compétitions confondues, 11 matchs sans défaite, Chelsea pouvait aller titiller Liverpool qui jouera plus tard, et ben à Everton le 16e, les Blues ont été tenus en échec 0-0, ils sont à 1 point donc de Liverpool qui compte 2 matchs en moins, Liverpool qui débute à l'instant son match de cette 18e journée à Tottenham. Et puis le résultat qui nous signifie qu'à Manchester rien ne va plus, que ce soit pour City ou pour United. Manchester United 13e recevait Bournemouth 5e, et c'est Bournemouth qui s'est imposé 3-0. Ça vaut le coup de changer d'entraîneur.
Bournemouth qui fait un très très bon début de saison. On passe de l'Angleterre à l'Espagne avec un gros coup. Hier soir, mon cher Olivier, l'Atlético de Madrid qui s'est imposé. C'est la grosse surprise sur le terrain du FC Barcelone.
Ah oui, l'Espagne et cette Liga où l'Atlético a frappé un très grand coup. Effectivement, hier soir, les Colchoneros, longtemps menés et dominés à Barcelone, mais vainqueurs 2-1 grâce à un but, 108e de la saison du Norvégien Alexander Sørloth à la 96e minute. Une 12e victoire de rang, toutes compétitions confondues. La première, ça c'est rigolo, de Diego Simeone en tant qu'entraîneur à Barcelone. Et pourtant, il est là depuis longtemps. Marine me disait tout à l'heure, disons, vraiment Simeone, c'est fort. Hein.
Exact. Avec toutes mes connaissances, n'est-ce pas?
Cette victoire propulse l'Atlético en tête de la Liga, 3 longueurs devant le Barça. Et avec un match en moins des Blaugrana en perdition, en revanche. Hein. Une victoire sur leurs 7 derniers matchs, 4 défaites en tout. Le début de saison quasi idyllique et loin pour les hommes d'Hansi Flick, qui pourraient voir le Real les doubler en cas de succès face au FC Séville. Et ça part plutôt pas mal, puisque les Madrilènes mènent 3-1 à la pause. Ouverture du score, incertain. Kylian Mbappé. Je
connais pas.
Ouais, on en a vaguement entendu parler. Et puis bon, bah, pour ceux qui disent que c'est pas une bonne saison, c'est quand même son 10e but en Liga. Ça ferme des bouches.
Ça ferme des bouches. La Coupe de France, ouais, c'est 32e de finale.
Oui, c'est un autre décor, c'est un peu moins bon, mais quand même.
Ça ferme moins de bouches, là.
C'est l'histoire du gros qui se fait manger par le petit, c'est pas mal aussi. 32e de finale avec leur lot de surprises, mauvaises parfois pour l'élite. C'était le cas hier. Le Havre et Montpellier en ont fait les vrais. Les Havrais 17e de Ligue 1, battus 1-0 par le Stade Briochin. Moi, j'aime bien ce nom-là, c'est Saint-Brieuc. Le Stade Briochin, club de National 2, autrement dit la 4e division. Hein. Et puis les Montpellierains, lanterne rouge du championnat, étrier 4-0 au Puy, qui évolue également dans cette 4e division. C'est passé sinon pour Brest, Toulouse, Nantes, Strasbourg et Lyon. La suite, bah, c'était en début d'après-midi, ce sera ce soir également. L'Union Saint-Jean, club de Régional 1, la 6e division, recevait Monaco. Monaco a gagné 3-1. Et puis, Steel Mutzig, ça aussi c'est la Régional 1 contre Reims. Moi j'appelle ça l'Alcolico. Hein. Mutzig contre Reims, ça fait bière contre champagne. L'Alcolico est revenu à Reims, 3-1, sans trop
plus
de problèmes.
À l'alcool.
Saint-Etienne-Marseille, 4-0 pour l'OM, à 11 contre 10, très rapidement et fort logiquement. Il n'y a pas eu match. Et puis Bordeaux-Rennes, ça c'était une affiche de Ligue 1 il y a quelques temps, pas si longtemps finalement. C'est Rennes qui s'est imposé 4-1 face à Bordeaux. Enfin, Dunkerque qui joue le haut de tableau en Ligue 2, sans Auxerre. Petite surprise quand même. Club de Ligue 1, 1-0. Le choc en soirée avec le déplacement de Paris, 15 fois titré dans la compétition, tenant du titre. Le PSG à Lens, une affiche de gala pour les nordistes face à des Parisiens invaincus sur la scène nationale depuis le début de la saison. C'est à 20h, temps universel.
On change de continent, on part en Afrique avec la suite du deuxième et du dernier tour de qualification pour le prochain CHAN en février.
On rappelle deux choses. Burundi-Ouganda, ça a été reporté au 26-12. Bon, ils avaient envie de passer Noël tranquille. Ils se sont dit, on va jouer plutôt après. Et puis, pour info aussi, Mozambique-Zambie. La Zambie est qualifiée pour le CHAN directement suite au forfait du Mozambique. C'était des matchs qui étaient annoncés pour ce week-end. Voilà. Aujourd'hui, donc, Soudan du Sud, Rwanda, victoire des Sud-Soudanais 3-2. Et puis, pour ne pas être en reste, l'autre Soudan a gagné aussi en Éthiopie 2-0. Depuis 30 minutes, alors là, ça claque. Il y a des buts partout. Non, je blague. Il y a 4 matchs, il y a 3-0-0.
C'est compliqué des fois.
0-0 Ghana-Nigeria, 0-0 Libéria-Sénégal, 0-0 Togo-Niger. Heureusement, dans le choc qui nous intéresse, à RFI, Côte d'Ivoire-Burkina Faso, les Ivoiriens chez eux, au stade Félicia, qu'on aime tant, mènent 1-0 face au Burkinabé. Dans 30 minutes, Marine, Marine, c'est pardon, mieux. Marine, c'est... Marine, Mauritanie-Mali. Bon, bah, attention quand même. Hein, c'est... Voilà. Et puis, dans 2h30, pour ceux qui préfèrent, République centrafricaine, Cameroun, au stade des Bimpé, à Abidjan aussi. C'est vrai qu'on a l'impression en Côte d'Ivoire depuis la CAN que c'est la CAN tous les week-ends. Ils sont les seuls à avoir des stades
et homologués.
Homologués et donc, ils reçoivent plein de matchs. Et c'est plutôt sympa.
Ah, mais tant mieux pour la Côte d'Ivoire. On change de sport. Le basket, vous vouliez parler d'un nouvel exploit. On ne les compte plus hein, maintenant. Hein, du français Victor Wembanyama.
Ah ouais, la performance XXL de Wembanyama avec les Spurs de San Antonio la nuit dernière. Ils battent Portland 114 à 94. 30 points et surtout 10 contres pour le français. C'est un record cette saison en NBA. Voilà, ah ça ouais. Se mentionnait.
Et c'était très complet, encore une fois. Mon cher Olivier Pron, merci beaucoup. On va retourner sans plus tarder à notre thème principal de l'émission, Alexander Usyk contre Tyson Fury. Le grand combat, le choc des titans du côté de l'Arabie Saoudite. What is it you would like to talk about?
You're awake, Mr. Fury.
Welcome back.
How was your flight, Rabbit?
Is everything okay, sir?
You don't look at me anymore. I miss you.
Do you miss me?
Don't be afraid.
I don't want to.
Will you sleep at night, ugly man? You think
of me? I'm gonna punch your face in.
Shut up! Shut up! Shut up!
Et on ne peut pas nier hein, que les promoteurs saoudiens mettent le paquet hein, quand il faut vendre des soirées boxe à l'image de cette vidéo promotionnelle que vous entendez, chers auditeurs. Excellente avant cette revanche entre Usyk et Fury, mais qu'elles paraissent déjà loin, les grandes soirées de boxe anglaise en direct de Las Vegas pour couronner un ou une nouvelle championne. Le décalage horaire nous obligeait à se lever en pleine nuit pour apprécier les exploits de nos pugilistes préférés. Désormais, le centre du monde, quand on parle boxe, eh bien, c'est Riyad, l'Arabie Saoudite. S'est imposé comme la plaque tournante des plus grands combats mondiaux. Les meilleurs s'y affrontent moyennant des bourses énormes. Pour parler de ce chapitre autour de Riyad et pour parler un petit peu de sa carrière, on va accueillir un grand boxeur français, un grand boxeur franco-sénégalais car il est né à Dakar. Souleymane Sissoko nous fait le plaisir d'être avec nous en direct sur RFI. Salut Souleymane.
Salut à tous.
J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour nous de vous avoir quelques instants en direct dans RFI pour évoquer la boxe. Avant de parler à la fois de Riyad et un petit peu évidemment de votre carrière, je voulais avoir votre ressenti rapidement sur le combat d'hier entre Fury et Usyk. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement ?
Bon, on a eu un beau combat entre deux boxeurs hein, qui voulaient aspirer à être vraiment le roi des poids lourds, sachant que Usyk avait gagné bien sûr le premier combat. On a un combat qui a été un peu plus tactique de part et d'autre, mais oui, je vois quand même Usyk gagner ce combat. C'est vrai que Tyson Fury n'était pas content de la décision parce que voilà, ça pouvait être un peu plus serré. Lui donner 4 rounds, c'est vrai que ça fait un peu limite, mais bon, au final, c'est quand même Usyk qui s'impose.
Donc décision logique, on est tous d'accord ici à RFI, n'en déplaise à certains commentateurs sur, sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est dit. Passons maintenant à Riyad. Marine Camara, quand vous voyez qu'aujourd'hui les plus grands combats se disputent à Riyad, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on est pratiquement tous de cette même génération. On s'est levé, comme je le disais en préambule, pour regarder des combats, que ça pouvait être de Mike Tyson ou même Mohamed Ali pour les plus anciens d'entre nous. On se levait, c'était un rendez-vous en famille avec notre papa, notre maman, notre frère, notre sœur. Ça a changé complètement. Alors là, on parle vraiment que du sportif, mais il y a évidemment de la géopolitique derrière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce pivot de la boxe qui est passé finalement des États-Unis jusqu'au Moyen-Orient et l'Arabie Saoudite?
Bah, je dirais que pour nous, en tant que Français, francophones, c'est parfait, parce qu'on se couche moins tard.
C'est vrai.
Donc on n'a plus besoin de faire de nuit blanche. Riyad, c'est un peu au centre du monde, en tout cas des sports de combat aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, parce qu'on a les combats qu'on a toujours voulu. On se rend compte que quand on met les moyens, bah, finalement, il n'y a plus de blocage. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose, en tout cas pour remettre la boxe au goût du jour, sur la scène mondiale.
Sur le sportif, ça a l'air d'être une bonne chose. Évidemment, c'est ce qu'on appelle le sport washing. Il y a une volonté géopolitique derrière. Il y a cet objectif de Coupe du Monde de football 2030. On sait que la Riyad Season, ce qu'on appelle la saison de Riyad en boxe, qui se dispute entre octobre et mars, c'est là où il y a les plus grands combats de boxe du monde. Il y a aussi une stratégie politique derrière, on ne va pas se le cacher.
Mm-hmm. Ah, mais complètement. On sait tous aujourd'hui que les EAU et du manière générale le Moyen-Orient souhaitent aujourd'hui rayonner culturellement et se servir finalement du sport pour ça aussi. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, déjà pour des raisons de décalage horaire, mais aussi c'est plutôt une bonne chose parce que finalement, ça met fin à cette situation un peu monopolistique qu'avait l'Amérique du Nord. C'est elle qui décidait pour tout le temps. Nous, on devait se caler derrière. Finalement, il y a quelqu'un en face, il y a un concurrent et nous, consommateurs, entre guillemets, on va plus avoir le choix. Et surtout, les athlètes aussi vont plus avoir le choix, comme vous le disiez. Les EAU arrivent avec leurs moyens, ils croient au projet, ils n'hésitent pas à signer des gros chèques. Et du coup, bah, ça attire du monde, ça fait monter les prix pour tout le monde. Tout le monde y trouve son compte, en fait.
Souleymane Sissoko, quand on voit aujourd'hui que Riyad est devenue un petit peu la ville monopolistique, finalement, de la boxe mondiale, ça veut dire qu'il y a des régions du monde qu'on oublie maintenant complètement. L'Europe, on l'oublie. Alors, évidemment, Londres est encore un centre important quand on parle de combat de boxe, parce qu'il y a encore de très grands boxeurs aussi en Angleterre qui permettent de pouvoir remplir des stades de 90 000 places. Mais je pense aussi au continent africain, par exemple. Il y a énormément de très bons boxeurs en Afrique. C'est quand même dommageable, Souleymane, d'avoir des grandes régions du monde totalement absentes de la carte de la boxe.
Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est dommage, là, au niveau de l'Afrique, il n'y a pas tant de combats que ça. Mais c'est dans les tuyaux. Hein. Riyad Season, ils essaient de s'étendre un peu au niveau international. Ils ont fait des shows aux États-Unis. Ils essaient de faire des shows en Angleterre. Et là, le prochain objectif, en tout cas, ce serait l'Afrique avec un Ngannou, un Bakolé et pas mal d'autres champions. Moi, en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir boxer. En tout cas, mon prochain combat sera en Guinée équatoriale, donc ça, c'est une très bonne chose. Et la volonté d'un partenaire sur place, c'est vraiment de faire développer la boxe en Afrique. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose. L'Afrique est pétrie de talents, il y a énormément de très bons boxeurs. Ce qui manque, c'est les moyens et beaucoup plus de promoteurs pour les promouvoir dans leur carrière.
C'est parfait, vous tendez la perche de votre combat en Afrique. Avant de revenir sur cette demi-finale mondiale que vous avez dû reporter due à une blessure, je voulais tout simplement vous demander comment se passe votre récupération en ce moment. Je lis que c'était c'est une fracture de la main, donc comment se passe la convalescence, pardon.
C'est ça. Bah, la convalescence se passe très bien. J'ai fait 2 mois de camp d'entraînement aux États-Unis. Je suis rentré en France pour voilà, récupérer un peu du décalage horaire, etc. Et sur le dernier sparring, le dernier round, j'ai fait 10 rounds. Au dernier round, il restait quelques secondes. Boum, j'ai mis une droite et je me fracture complètement la métacarpe 4. Bon, après, voilà, c'est dommage parce que voilà, j'ai fait une très bonne préparation, j'étais bien, etc. Là, l'idée, c'est d'être immobilisé pendant à peu près 6 semaines. D'enlever la telle et puis derrière de commencer à bouger petit à petit. J'ai déjà commencé à enlever la telle, mais voilà, on va essayer de taper, je pense, dans 2 mois et essayer de reboxer dans les 3-4 mois à venir.
Ah bah, donc, c'est une bonne nouvelle. On a
à peu près pour avril.
On a hâte de vous revoir sur le ring, mon cher Souleymane. Xavier Foupapoka a une question. Merci. Pour vous.
Alors non, c'est pas vraiment une question, mais c'était en fait, pour revenir à cette question de la localisation finalement, et cette polarité entre d'un côté l'Amérique et de l'autre le Moyen-Orient, qui finalement oublierait un peu l'Afrique. Moi, le sentiment que j'ai, mine de rien, c'est que, en vérité, ce Moyen-Orient qui arrive dans les sports de combat, il laisse plus sa chance effectivement aux athlètes africains, contrairement à ce qui se passait avant, où tout se passait aux États-Unis et finalement, celui qui affrontait l'Américain était le visiteur. Non seulement ça, mais en plus, quand on regarde aussi bien en boxe anglaise ou en MMA, quand on regarde la situation de l'UFC, on a vraiment l'impression que finalement, l'Afrique restant aujourd'hui le seul territoire encore très peu développé d'un point de vue pugilistique, ça semble être la terre à conquérir, la terre encore au plus fort potentiel de développement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Souleymane ?
Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est vraiment une terre à fort potentiel. Et vraiment, c'est dans les tuyaux. Ils en ont parlé plusieurs fois. Il y a Turki Alisher, celui qui gère un peu tout ce qui est entertainment là en Arabie Saoudite, qui veut vraiment faire un show absolument aux États-Unis. On a des grands champions comme Anthony Joshua qui veut boxer en Afrique. On veut tous avoir un peu le remake de ce qu'il y a eu entre Foreman et Ali au Congo. Donc voilà, on parle tous de ça. Ça fait, là, on avait fêté les 50 ans il n'y a pas très longtemps. Et je pense qu'il y a ce truc de retour aux sources, etc. Et pour la petite anecdote, là, j'étais en Guinée équatoriale avec pas mal de boxeurs américains qui sont donc un des frères Charlot qui a été champion du monde, qui a vaincu André Berthaud, qui a fait le dernier combat face à Floyd Mayweather, donc de très grands champions qui ne connaissaient pas l'Afrique et ils ont adoré. Donc là, les Américains commencent voilà, il y a un peu tout ce qui est retour aux sources, etc. Ils veulent voilà, découvrir la terre-mer et autres. Et je pense que c'est vraiment le futur. Le présent et le futur, en tout cas, de la boxe sera en Afrique. Ça, j'en doute pas une seconde.
Et le présent, puisque, comme vous le disiez il y a quelques instants, vous deviez boxer à Malabo le 7 décembre face à un grand boxeur, également le lituanien. Alors, j'essaie de bien prononcer, hein, Egi Didžius Kavalioskas. Vous me disiez il y a quelques instants, donc le combat, vous l'avez reporté, il va donc être de nouveau officiel et il se disputera bien en Guinée équatoriale.
Effectivement, le combat, voilà, il est reporté suite à la blessure, mais il aura lieu en Guinée équatoriale, à Malabo précisément.
Et vous savez que vous marquez un petit peu l'histoire de faire revenir un petit peu la boxe sur le territoire africain, vous qui êtes né au Sénégal. J'imagine que c'est une énorme fierté, d'autant plus que c'est un combat très important vu qu'on l'explique ici comme une demi-finale mondiale pour la catégorie, enfin la fédération WBC.
C'est exactement ça, c'est ce qu'ils appellent la Final Eliminator, donc c'est le combat avant le titre. Donc le gagnant de ce combat-là fera derrière le titre le championnat du monde. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment dans une idée de développement de la boxe en Afrique, pas qu'en Guinée, mais en Afrique, et l'idée, c'est vraiment de faire une ceinture mondiale sur le continent africain.
Et quand vous dites l'idée, ça veut dire que vous verriez bien disputer la ceinture à Dakar, par exemple ?
Ah oui, pourquoi pas à Dakar ou dans un autre pays d'Afrique. Moi, c'est vraiment... lorsque je suis passé professionnel, j'ai eu deux objectifs de boxer aux États-Unis. Je l'ai fait plusieurs fois. Et vraiment, ça me tient à cœur de boxer en Afrique. Donc, peu importe le pays, j'aimerais beaucoup boxer au moins une fois, mais voilà, plusieurs fois en Afrique.
Mais on sait, on connaît votre attachement au continent africain et ce qui permet aussi de le voir se développer au niveau de la boxe. C'est vrai que la boxe française peut aussi compter sur vous, le franco-sénégalais. Je pense aussi à Christian Mbili, qui lui est franco-camerounais. C'est par ce biais-là aussi qu'on peut voir de très gros combats en Afrique, étant donné que Christian Mbili, dans sa catégorie également, est très proche de disputer un combat pour une ceinture. C'est par ce biais-là donc que l'Afrique pourrait rayonner au niveau de la boxe ?
Bien sûr, il y a énormément de bons boxeurs africains qui sont aujourd'hui à l'étranger. On pense à Christian Mbili, mais il y a aussi Kevin Lele Sadio, qui sont dans la même catégorie. D'ailleurs, les deux vont potentiellement
s'affronter
une Final Eliminator, exactement, pour la ceinture IBF. Et il y a énormément d'autres champions. Moi, j'en connais plein. Lorsque je parle avec des amis qui aimeraient beaucoup boxer en Afrique, je pense à Tony Yoka qui adorerait boxer au Congo et c'était dans les tuyaux aussi. Je pense à énormément de boxeurs comme ça qui aimeraient vraiment dans leur carrière avoir un combat en Afrique.
Marine Camara, une question pour vous, Souleymane Sissoko.
Bonjour Souleymane, oui. On s'est déjà croisé il y a 4 ans, je me rappelle, au tournoi qualification olympique à Dakar. J'ai vu récemment que tu as créé du coup une boîte de promotion. Tu es quand même un des exemples pour la boxe africaine, malgré le fait que tu aies représenté la France. Qu'est-ce que tu vois comme talent africain émerger dans les années à venir ? Parce que tu as pu te présenter sur différentes compétitions. Et est-ce que tu as l'intention de t'installer en Afrique avec Boxium Promotions, du coup ?
Oui, bah, c'est une très bonne question.
Je dévoile un peu tes plans, je ne sais pas si, si je mets quelque chose sur la table. Mais...
non, c'est une très bonne question. Moi, vraiment, l'idée avec Boxium Promotion, c'est vraiment de développer la boxe en Afrique. Ce qu'on veut, c'est de faire des galas en Afrique parce qu'on voit qu'il y a de très beaux galas qui se font partout dans le monde et pas forcément en Afrique. On veut faire boxer tous les meilleurs boxeurs, pas qu'africains, mais au niveau des Américains, etc. On veut faire venir tout le monde en Afrique. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, on a... Bon, malheureusement, je me suis blessé à la main, donc on n'a pas pu faire ce premier gala, mais il aura bien lieu. Et l'idée, c'est vraiment de continuer comme ça, de faire au moins 2 à 3 galas par an en Afrique, aller chercher tous les forts potentiels africains, parce qu'il y en a beaucoup dans les différents pays, comme l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Nigeria, Sénégal, Mali. Bah, il y a énormément de pays doués, et surtout l'Afrique du Nord aussi, hein, entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. Donc voilà, il y a énormément de très bons boxeurs en Afrique. L'idée, c'est de leur donner aussi une opportunité, une chance de pouvoir briller au niveau international.
Merci beaucoup Souleymane Sissoko. On vous rappelle, vous êtes encore invaincu en professionnel chez les Welter, très proche de cette ceinture WBC. Merci beaucoup Souleymane de nous avoir accordé quelques minutes en direct dans Mondial Sport sur RFI. Coming from Edge Academy, he is Salah.
c'est parti pour le deuxième round. Je vous rappelle que 5 combats de championnat prévus en 5 rounds de 5 minutes. Et tout de suite là, le pressing hein, pour Wilson.
Wilson qui remet le pressing.
Oh ! Et la gauche
et
en ligne !
Sur la gauche en ligne !
Et l'accélération tout de suite derrière.
L'accélération de Salah.
Est-ce qu'il va pouvoir revenir Wilson dans le combat ? Ouais. Il essaie de s'accrocher.
Il essaie de s'accrocher comme il peut. Ouais, mais là, il y a une frappe qui passe. Une autre. Et la défense de Wilson qui est inquiétante. Si ça continue comme ça, va vite pas arrêter le combat et c'est terminé.
Et c'est terminé.
Et c'est terminé. Waouh. Waouh, 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 waouh.
Your winner. And still. KSW Lightweight Champion of the World. The Lion.
Sports de combat qui se font une part belle ce week-end en France, la Défense Arena de Nanterre, dans le nord de Paris, a abrité l'une des plus grandes réunions de MMA sur le sol français depuis sa légalisation en 2020. La star de la soirée, Salahdine Parnasse, a conservé sa ceinture du KSW dans la catégorie des moins de 70 kilos contre son compatriote Wilson Varela. Avant de revenir sur le combat, l'organisation de la soirée, Xavier Foupapocam, on va pas redire votre expérience dans le MMA, mais un mot sur Salahdine Parnasse, encore une fois vainqueur dans son organisation, le KSW, la plus grande organisation européenne. Il a plus de concurrence, Salahdine, là où il est, à 27 ans seulement.
Complètement, mais il a battu tout le monde aller-retour, et surtout, il y a un vrai problème, c'est qu'on le regarde, en fait, il est bon partout. Il est bon partout, il n'a aucune faille, aucune faiblesse. Déjà sur le plan physique, on l'a vu, changer de catégorie, ça ne pose pas de problème. Il est arrivé bien épais, bien dense, rapide, puissant, explosif, endurant. Après, sur la partie technique, il est créatif, il s'adapte à tout. On le voit, à un moment donné, il se retrouve sur Varela dans son dos. Bien entendu, il respecte les étapes, chaque étape par étape. Il l'allonge bien, le met bien à plat dos pour l'empêcher de pouvoir éventuellement réagir ou renverser. Avant de lui asséner ce ground and pound fatal, il est vraiment très très fort. Ça va être très compliqué de le défaire de là où il est. Tout le monde aimerait le voir à l'UFC.
On va en parler.
Moi, je pense qu'il fait les choix qui sont bons pour lui et les enjeux des athlètes ne sont pas toujours ceux de ceux qui les regardent.
Très intéressant. Un beau teasing. Marine Camara, vous me disiez pendant la virgule sonore que vous étiez une fan absolue de MMA. Qu'est-ce que vous avez pensé de Salahdine Parnasse? C'est vrai que c'est un prototype. Hein. C'est plus qu'un combattant.
C'est ça. Fan absolue, je ne vais pas me lancer sur ces termes-là parce qu'il y a des termes que je ne connais pas. Mais c'est vrai que Salahdine Parnasse, c'est un des athlètes que je suis le plus. Je trouve que c'est une figure ultra inspirante. Un homme engagé, posé. C'est un prodige, comme sa marque l'indique, super prodige.
Mais un prodige qui travaille en plus, c'est ça le pire.
Un prodige qui travaille,
qui est extrêmement discipliné.
Exactement, discipliné. À chaque fois, on le voit à l'entraînement. C'est quelqu'un qui a l'air d'être, constant et committed à ses objectifs.
Dévoué.
Exactement. Et c'est les valeurs du MMA qu'on aime voir. Donc, très impressionnant.
C'est vrai qu'il est un peu aimé de tous, Salahdine Parnasse. Vous commenciez à parler d'autres logiques que le sportif pour les athlètes. On sait que Salahdine Parnasse a re-signé un contrat avec cette organisation, moyennant évidemment une allonge financière plus que conséquente. Il prendrait entre 400 et 500 000 euros par combat. Son extension de contrat, alors que tout le monde l'attendait dans la plus grande organisation de l'UFC, elle est logique parce qu'il y a aussi ce côté, le confort. Il faut avoir aussi un certain confort de vie pour pratiquer son art.
Mais il y a plusieurs choses. Et effectivement, ce pont d'or que lui a fait le KSW à l'échelle du KSW, mais quand on la met en comparaison, quand on la met en face de ce que lui proposerait l'UFC pour une entrée à l'UFC, même dans les meilleures conditions, ce serait incomparable. Et ensuite de ça, il y a le fait qu'au KSW, c'est vraiment le héros du KSW, un porte-drapeau, un porte-étendard, un poster boy, comme on l'appelle, là où, on le sait, à l'UFC, aujourd'hui en tout cas, l'UFC préfère être la vedette et ne pas laisser trop de place aux égos, aux personnalités des combattants. Et ça aussi, je pense que c'est un vrai problème en termes de développement personnel. Maintenant, beaucoup de gens se posent la question, beaucoup de ses fans se posent la question, oui, mais Salahdine, là, tu tapes tout le monde là où tu te trouves, qu'est-ce que tu donnerais en face à l'élite qui se trouve à l'UFC? Effectivement, on attend tous de voir ça, même lui, Salahdine, je pense qu'il est un athlète, un sportif, un compétiteur, a besoin de cette opposition pour continuer à évoluer.
Il ira.
Il ira forcément, mais on a tous des enjeux personnels, et lui, il l'a souvent exprimé, peut-être un peu maladroitement, parce qu'on lui a reproché à une époque. Il y a la vie parfois est bêtement pragmatique, voire un peu vulgaire, mais le côté économique a aussi son importance.
Et oui, on critiquera jamais les choix des athlètes parce qu'ils pensent d'abord à leur famille. Il y a d'autres choses qui viennent en compte que satisfaire les fans. On pense à Cédric Doumbé aussi.
Mais oui.
On souhaitait le voir à l'UFC, mais peut-être que l'argent qui était proposé n'était pas assez intéressant.
Et puis souvenons-nous, Marine, on pratique des sports à risque, des sports difficiles.
Exactement.
Dans lequel tout peut s'arrêter du jour au lendemain, après un combat, après même un entraînement, après même un accident de la vie. Donc on n'est jamais sûr de rien. Il vaut mieux parfois construire sur des bases solides plutôt que de se projeter peut-être un peu trop loin et prendre trop de risques.
Le KSW s'est peut-être un peu projeté trop loin en organisant sa soirée à la Défense Arena de Nanterre. Alors vous avez vu la soirée, on va dire, à la télévision. Moi, j'y étais. Avant que je vous donne mon avis de ce que j'ai ressenti, vous, comment vous avez... ressenti la soirée? On sait que la Défense Arena, c'est la plus grande salle d'Europe, c'est 40 000 places. Moi, je vous le dis, il y avait moins de 15 000 personnes dans la salle. Est-ce que, quand vous avez vu la soirée, vous avez ressenti peut-être un manque d'ambiance sur certains combats, ou alors c'est passé tranquillement, pour vous, il n'y avait pas de problème?
Marina, peut-être? Marine.
Alors, pour moi, je trouve que la carte était superbe. J'ai vu des combats, des KO, des finitions. C'est tout ce qu'on attend, en fait, d'un match de MMA. Avec notamment un combat qui m'a marqué, c'était, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était les moins 84 kilos, le franco-algérien contre le oui. Belge. Oui, oui. Ça, c'était ultra impressionnant. C'était incroyable. Ouais. Fort, déterminé, agressif. Mais effectivement, pour avoir fait d'autres soirées de MMA un peu plus petite, j'ai trouvé qu'il y avait moins d'ambiance. Il y avait moins de proximité entre les spectateurs. Du coup, peut-être que ça laissait trop de vide. Et c'est ça qui a un peu terni l'image de l'événement que tout le monde attendait. Maintenant, ça reste quand même un événement qui a rassemblé, qui a eu beaucoup de visibilité sur les réseaux et qui a mis en valeur une fois les talents français de demain et d'aujourd'hui.
Il y a eu beaucoup de vide.
Oui, on a vendu pourtant à grand renfort de promotion le plus grand événement de MMA.
On attendait 30 000 personnes.
Voilà, avec 30 000, finalement 16 000 quand même. Ouais. C'est pas mal, c'est plus que l'UFC Paris. Bah, au final, est-ce qu'on n'a pas eu les yeux un peu plus gros que le ventre du côté du KSW? Parce qu'on peut mettre 16 000 personnes, quand on les met dans une salle qui contient 30 à 40 000, finalement, ça fait une salle un peu vide, même quand c'est beaucoup de monde. Donc c'est un peu ce sentiment, ce petit goût amer qu'on a ressenti malgré les superbes combats qu'on a eus, des garçons très engagés, des très beaux storytelling. Sur le plan sportif, rien à dire. Peut-être sur ce plan de l'organisation, ça peut arriver, mais c'était un petit peu moins bien. Oui.
Il y avait une étape peut-être en intermédiaire, Bercy. C'est vrai qu'ils avaient commencé par l'Adidas Arena, Porte de la Chapelle, mm-hmm. c'est 10 000. Allez, un petit peu moins, c'est la configuration mm-hmm. MMA, ça peut être 8 000. On passe quand même de 8 000 à 30 000. Ouais. Alors oui, Salardine Parnasse est une star au KSW, mais c'est peut-être pas encore une énorme star en France. Est-il capable, lui, de ramener 30 000 personnes pour un combat?
Alors, je dirais que c'est toujours trop facile. Hein. C'est comme en foot, quand on perd, on accuse l'entraîneur. Trop facile de penser qu'il n'y a qu'un seul élément à une performance. C'est une conjugaison.
Ils ont peut-être parié là-dessus, le KSW.
Ils ont parié là-dessus, mais c'est une conjugaison de facteurs. Et alors, effectivement, ce qui est sûr, c'est que la salle d'hier était trop grande par rapport au public qu'on a ramené. Il va falloir revoir des choses. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le KSW, une fois de plus, du bon spectacle, de très belles retombées. Et puis des athlètes, une fois de plus, qui en sortent mis en valeur et grandissent. Ça donne vraiment envie d'y retourner.
Bon, en tout cas, c'est vrai que pour le coup, le sportif, il y avait rien à dire. Peut-être un petit problème au niveau de la logistique. Est-ce qu'il y avait peut-être est-ce que la salle était vraiment intéressante pour le MMA? Mais
on l'a reconfigurée peut-être, parce qu'on peut très bien prendre une grande salle et finalement se rendre compte qu'il n'y a pas assez de monde. On déplace.
Et ils reviendront sûrement, puisque Salardine Parnasse a conservé sa ceinture et c'est toujours la légende du KSW. Mondial Sport, c'est fini pour aujourd'hui. On remercie Souleymane Sissoko d'être passé nous faire un petit coucou il y a quelques instants. Marine Camara, Xavier Foupapocam, merci beaucoup pour vos analyses très pointues et je m'y attendais. Hélène Avril a réalisé cette émission. Assez tout, Samake m'a aidé à la préparer. Le week-end prochain, Mondial Sport spécial JO 2024 avec Baptiste Leduc. Excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye.